Radio-Télévision Suisse.
RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, cap sur le Togo avec des réflexions philosophiques. Nous irons aussi chez un artiste qui frôle le paradis et nous parlerons des hommes maltraités. L'écrivain togolais Samy Tchak publie un livre singulier, 600 textes courts qui portent un regard philosophique sur la vie et sur le monde. Un échange étonnant avec son père disparu qui va vous faire réagir. Il y a des couples qui souffrent en silence, des femmes battues mais aussi des hommes violentés par leurs épouses. C'est le nouveau sujet du nouveau roman de Claire Castillon qui change d'éditeur pour l'occasion et se retrouve dans la prestigieuse collection Blanche de Gallimard. Bonjour Claire Question.
Bonjour.
Comment allez-vous, Claire ?
Très bien.
Vous êtes mise dans la peau d'un homme maltraité par sa femme. Pourquoi pas l'inverse alors qu'on parle plutôt des femmes maltraitées en ce moment ? Vous avez joué le contre-pied ?
Je ne l'ai pas joué forcément, mais je pense que parler comme ça d'un sujet minoritaire, ça m'intéressait plus.
Ouais.
Même si j'ai bien senti que ça arrangerait pas mal de gens que je raconte l'inverse.
Ouais, ouais. Et vous en dites des choses très graves, avec une femme perverse, abjecte. Vous avez tout fait pour qu'on la déteste, on y reviendra tout à l'heure avec vous, Claire Castillon. Et puis nous irons chez Céron, artiste des années 70, révélé par le disco, précurseur des musiques électroniques. Son répertoire, peu connu du grand public, a inspiré pourtant les DJ les plus populaires. Nous reviendrons avec lui sur son parcours sulfureux, quelque part dans Paris.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole.
Grande émotion pour la disparition d'une grande voix cette semaine en Belgique et au-delà à travers toute la francophonie. Morane, morte brutalement à l'âge de 57 ans, avait une force discrète entre jazz et variété. Elle faisait partie de ces grandes voix qui ont du coffre, comme Céline Dion ou Lara Fabian. À la différence qu'elle savait la contenir, peut-être mieux que les autres. Lara Fabian, qui dévastée, a réagi mardi depuis Montréal, dans son petit bureau tout blanc, dit-elle. Je nous veux encore debout, face à face, toi mon autre, je veux nos fous rires et nos voix mélangées. Morane était une artiste du partage. Elle disait que si tout le monde se mettait ensemble, on pourrait faire de grandes choses. Très attachée aux mots qu'elle chantait, Morane était une chanteuse à texte. Sa passion pour Brel, son amitié pour Claude Nougaro symbolisaient cette symbiose et cette précision entre les lettres et les notes. En août 2009, elle sortait un album hommage à Nougaro, son modèle, reprenant ses chansons les plus populaires mais aussi parfois les plus difficiles. Morane a rejoint son autre dans la symphonie très particulière du mystère de la vie et de la mort.
Dansez sur moi le soir de mes funérailles. Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Un chant de cygnes s'est éteint, mais un autre a cassé le feu sous un saphir en vrai saphir. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi.
Et quatre libraires nous accompagnent pour cette émission comme chaque semaine. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne. Semaine difficile et grande émotion à Bruxelles autour de Morane.
Mais oui, évidemment, nous on est un tout petit pays, hein, Emmanuel, donc c'est comme une grande famille. Et quand une personnalité comme ça, tellement proche, tellement chaleureuse, tellement talentueuse, disparaît, ben voilà, on est en deuil. Il n'y a pas d'autre mot.
Merci Déborah. Pour la France, on retrouve Mathieu Colombe. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Aix-en-Provence, dans la librairie Goulard, installée sur le célèbre cours Mirabeau. Et en Suisse, on rejoint Claire Renaud dans la librairie Atmosphère à Genève, qui est avec nous. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Vous étiez fan de Morane, je crois, vous.
Oui, aussi, oui. Beaucoup,
grande
beaucoup.
Tristesse pour vous.
Oui.
Bon, on pense à tous ces fans, d'ailleurs, au passage. Au Canada, c'est Marie-Hélène Vaugeois, de la librairie Vaugeois, dans la belle ville de Québec, qui nous accompagne. Bonjour Marie-Hélène.
Bon. Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous tous les quatre. Vous interviendrez bien sûr tout au long de cette émission. Et bonjour Samy Tchak.
Bonjour.
Vous êtes un grand écrivain togolais connu pour Le Paradis des Chiots, Prix Kuruma en 2006 et Al Capone le Malien. Vous avez été couronné en 2004 par le Grand Prix littéraire d'Afrique noire et vous revenez avec un livre très particulier, un échange philosophique entre vous et votre père par des sortes d'aphorismes, des textes très courts qui résument une pensée. C'était un sage votre papa ?
Oui. Est-ce qu'il était un sage? Peut-être, je me rends compte aujourd'hui. Oui, il était un homme qui accordait à la parole une importance. Ouais. Surtout à la parole qui avait vocation à lui survivre.
Ouais. Vous racontez une partie de votre enfance comme ça, votre père boiteux et votre mère malade, une mère que vous n'avez pas réussi à aimer malgré sa maladie, Samy Tchak. Jusqu'à sa mort, hein, elle est sur son lit de mort, elle vous appelle et vous sortez de là, de la chambre... comme ça, un peu perdu, mais sans émotion. C'est très rare de confier ce genre de choses.
Oui, j'ai mis du temps, disons, bientôt à 60 ans, je peux quand même ne plus me cacher quand même certaines émotions peut-être contenues ou certaines parties de moi qui constituent une sorte de petite honte. Mmh. Oui, je n'ai pas su aimer ma mère parce qu'elle n'a pas eu, elle, l'opportunité de m'aimer. Mon père s'est peut-être accaparé ce rôle. Il m'a trop aimé et ma mère a été obligée peut-être de contenir le trop grand amour de mon père pour moi. Du coup, elle a réussi à devenir une personne que je regardais avec une certaine distance malgré sa souffrance.
Oui, oui parce qu'elle était très sévère avec vous.
Oui, oui ça c'est vrai. Ouais. Et elle avait raison peut-être, mais ça ne suffisait pas pour que je comprenne le rôle qu'elle jouait.
Il y a des passages très troublants, hein, Samy Tchak, dans ce livre. Vous offrez à votre père en 2003 un voyage à la Mecque. Et quand il part, vous savez qu'il ne reviendra pas.
Oui.
Il va mourir là-bas.
Oui, oui, parce que en 1996, il était déjà allé.
Ouais.
Et son regret, c'est d'avoir été aussi proche de ce qu'il considérait comme le merveilleux, le monde rêvé, le paradis, et de revenir dans la vie banale de tous les jours. Son regret, c'est d'être venu vivant. Et en 2003, je savais, il avait tout fait pour qu'on comprenne qu'il ne reviendrait pas.
Comment est-il mort, si je peux me permettre enfin, il...
Ce sont des mystères auxquels nous, de ce côté-ci, n'avons pas accès. Puisque
il est mort naturellement, c'est ça que vous
Il est mort naturellement. Je dirais, bon, ben, la mort des pèlerins est toujours présentée comme une mort naturelle et le plus souvent une belle mort.
Bon. En tout cas, il semble dubitatif hein, sur votre vie d'auteur, parce que vous êtes déjà écrivain dans les années 90. Alors, il vous donne des conseils sur la perception de la vie. Il vous livre une leçon quasi philosophique, parce qu'il savait que la langue et les mots sont des armes, disait-il, bien plus dangereuses que le couteau ou le fusil.
C'est une chose qui m'est restée, cette idée qu'on peut mettre le feu à une maison ou à un pays par la parole, contrairement à ce que moi je pense, parce que j'ai toujours pensé que l'écrivain, ça n'avait aucune importance, ça ne servait à rien. Contrairement à ce que je pense, il considérait que par mon activité d'écrivain, j'avais entre mes mains une arme dont je devrais peut-être prendre soin.
Ouais. Et quand vous avez changé de nom alors, pour ce nom d'auteur, Samy Tchak, à la place d'Aboubakar Sadamba Tchakoura, ça l'a blessé ça ?
Oui, ça l'a blessé. Ouais. J'ai consacré un chapitre dans La couleur de l'écrivain. Ça l'avait blessé parce que par le pseudonyme qu'il ne comprenait pas, j'avais quitté une filiation, j'avais quitté un héritage.
Et, ouais. Et le village, quelque part.
Et le village, ce qui permettait à tout le monde de m'identifier.
Ouais. Alors, il tenait à l'authenticité de la vie, votre père, Samy Tchak. Il vous disait qu'il faut se méfier dans nos rapports à autrui, et notamment de la séduction des premières impressions. Alors, ça résonne évidemment en nous. On va écouter un extrait de votre livre, Samy Tchak, une surprise. Une auteure a accepté de lire un extrait de votre livre sur la musique togolaise de l'artiste Ndungu, que vous connaissez sans doute.
Ah, oui.
Et cette auteure, elle est face à vous, c'est Claire Castillon. On va l'écouter.
Ne peut-on pas dire que l'homme naît avec en soi tout ce qui le rend corruptible, comme le fer avec ce qu'il expose à la rouille? Il y a en nous, naturellement, un peu de méchanceté, d'égoïsme, de malhonnêteté, de jalousie, de bonté, de piété. Je pense que l'homme naît avec tout ce qui le rend imparfait. Si le fer n'avait pas porté en lui ce qu'il expose à la rouille, il aurait pu rester longtemps dans l'eau sans se rouiller. Ainsi parla mon père pour nuancer la pensée suivante de Jean-Jacques Rousseau : l'homme naît bon, c'est la société qui le corrompt.
Les imperfections humaines, on en parlera avec vous, Claire Castillon, tout à l'heure, hein, car vos personnages sont imparfaits. Samit Chak, votre père porte aussi un regard méfiant sur la gentillesse. Alors, il parlait des imperfections, on vient de l'entendre, mais cette gentillesse, c'est parfois un petit peu ambigu pour lui. Se montrer toujours gentil, ce n'est pas de la sagesse, disait-il, c'est de la lâcheté.
Oui, parce qu'il estimait que parfois, on se montre gentil pour s'éviter de juger. Alors qu'il y a des moments où on est obligé, peut-être avec bonté, de juger l'action, la parole de l'autre, sans méchanceté. Donc la gentillesse, à tout prix, est une forme de lâcheté selon lui.
Vous êtes gentil, vous, dans la vie ou pas?
Oui, j'évite quand même les conflits, donc j'ai choisi peut-être la lâcheté qu'il condamnait, lui.
Avec cette musique togolaise qui nous accompagne aujourd'hui dans la librairie francophone avec Samit Chak, Koudou Sassou, que vous entendez en ce moment. On parle de références littéraires aussi dans ce livre, d'allusions à de grands auteurs et penseurs. Cheikh Hamidou Khan, le poète iranien Omar Khayyam, Sénèque, Confucius, tous se croisent dans votre livre. Vous lui avez parlé d'ailleurs de tous ces auteurs et il a réagi à toutes leurs pensées. Il avait toujours quelque chose à dire et qui apporte en plus quelque chose de particulier.
C'est vrai que je ne m'attendais pas à cet enrichissement mutuel. Je croyais l'enrichir lui par des pensées auxquelles il n'aurait pas accédé. Peut-être que c'est lui qui m'avait permis de mieux comprendre ces auteurs que moi j'ai lus. Voilà.
Et il y a 4 libraires qui ont lu votre livre, Samit Chak, le Canada, la Belgique, la France ou la Suisse. On commence par qui, Samy?
Oh, je pense que, je ne sais pas, la France.
La France, il est là, Mathieu Colombe, Aix-en-Provence.
Alors déjà, ça va être dur de parler de ce livre, tant il y a à en dire. Il est riche, il est généreux d'enseignements. Ensuite, et principalement dans sa deuxième partie, il sait pousser à la réflexion le lecteur. Mais il ne se limite pas à ça. Il y a tellement d'émotions, de l'intime, il y a une écriture qui tient, qui est poignante et du regret palpable. Il y a encore plein d'autres choses que le lecteur pourra découvrir à son aise. Il ne faut pas penser en ouvrant ce livre qu'on a un recueil de maximes. C'est quelque chose qui va vraiment beaucoup plus loin.
Bien. D'Aix-en-Provence, on part à Bruxelles. Vous êtes d'accord?
Oui.
Déborah Damblon, c'est à vous.
Ben moi, j'ai trouvé ça mais magnifique, fort, beau, inspirant. Et puis ce miroir de dialogue entre ce père et ce fils qui ne peuvent plus parler, qui pourtant échangent, ils échangent au-delà du temps et puis même au-delà de la mort. Et ça, c'est exceptionnel. Mais c'est exigeant aussi parce que au fond, vous nous offrez 600-601 mini-livres à découvrir, à méditer. Et ce qui est certain, c'est que chaque phrase, ou presque, de l'un ou de l'autre, eh bien, vous nous montrez l'importance de cultiver le souvenir. Et ça n'a pas de prix.
Oui, c'est vrai que c'est assez long. Hein. Il y a beaucoup de choses. C'est très dense. Claire Renaud, en Suisse, êtes-vous d'accord?
Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai vu une énorme richesse qui force l'admiration. Je me suis sentie toute petite et toute humble. Votre livre, il est très dense, il y a plein de messages. Je ne suis pas sûre de les avoir tous saisis. Mais ce que j'éprouve, c'est un énorme plaisir à découvrir votre écriture qui est magnifique. Et comme vous le noterez, je n'ai que des superlatifs.
Oui, effectivement. Bon, on va voir si vous faites l'unanimité, Samy, avec le Canada. Marie-Hélène Vaujoie.
Oui, ben moi j'étais très touchée au départ par l'histoire de la famille, le père boiteux, la mère morte trop jeune. Mais à un moment donné, j'ai trouvé que l'abondance de textes a un peu dilué mon plaisir, malheureusement. Mais heureusement, certaines pensées étaient tellement fortes que je retournais dans le texte et dans le plaisir de lecture. Heureusement.
Oui. Il est heureux, Samit Chak. Oui, c'est vrai que c'est un océan comme ça de réflexion, un océan de mots. Dans la seconde partie de ce livre, Samit Chak, vous portez à votre tour une réflexion, des réflexions sur la vie. Il y en a beaucoup, effectivement, c'est assez long, c'est très diversifié. Il y a beaucoup d'ailleurs de pensées sur la nature. Quand on sait que la baleine urine, dites-vous, 970 litres par jour, que le lion, pour féconder une femelle, doit copuler avec elle jusqu'à 50 fois par jour. 50 fois par jour. On se doit de relativiser sur notre vie humaine.
Oui, on doit quand même, chaque fois qu'on se croit, quand peut-être à une certaine hauteur, quel que soit le domaine, se rappeler ces petits détails pour savoir que tout ça reste quand même petit devant le mystère de la nature. C'est pour ça que les animaux ont pris une place. Ils étaient là avant nous, de toute façon.
Ouais. Ils faisaient des choses avant nous.
Avant nous.
Des choses condamnables, d'ailleurs, comme les dauphins souffleurs. Vous racontez cette histoire, c'est incroyable.
Ils avaient ces comportements avant nous.
Alors, vous savez ce qu'ils font, les dauphins souffleurs, Claire Castillon ?
Pas du tout.
Les lions, donc c'est 50 fois, ça vous l'avez compris, par jour. Les dauphins souffleurs séquestrent une femelle. Ils s'y mettent à plusieurs, en fait. Ils sont 2, 3, 4, très amis, très soudés. Ils vivent leur vie ensemble et quand ils veulent féconder une femelle, ils la séquestrent, ils l'entraînent vers le fond, ils la bloquent et à tour de rôle, ils vont faire les choses.
On parlerait peut-être pour les humains d'un viol en réunion.
Oui, c'est ça.
Et soit, il faut peut-être avoir les termes juridiques que les humains emploient. Pourtant, la nature avait prévu ça. Il arrive même que la femelle en meure. J'ai vraiment voulu, par les animaux, montrer que nous sommes une composante de la grande civilisation animale.
On apprend des choses, alors, comme ça. C'est parfois drôle, souvent léger, d'ailleurs. Et puis, parfois, vous êtes dans la provocation sur les végétariens. On ne va pas en parler là, on laissera découvrir. Vous parlez du racisme aussi. Alors là, il y a beaucoup de pages sur le racisme. À votre façon, vous rapportez ce que vous entendez au quotidien, des choses abjectes sur les Noirs, les Arabes, les Roumains. Et puis, vous expliquez que le racisme est né de théories occidentales sur la supériorité de l'homme blanc, ce que vous nommez la verticalité. Vous en déduisez donc que tous les blancs sont racistes au fond d'eux-mêmes, je cite, même les caucasiens amis des noirs africains.
Oui, disons, je pars de l'idée que tous les blancs portent quand même en eux ce que leur civilisation a fait du monde. Il y a au moins une conscience que c'est la civilisation la seule quand même dans l'histoire du monde à avoir réussi une influence aussi structurante de l'humanité. On ne peut pas l'oublier quand même dans le rapport à l'autre. Tous les blancs n'ont pas de comportement strictement raciste.
Non, mais vous montrez quand même que le racisme, c'est une histoire de blanc. C'est une histoire de blanc vis-à-vis de l'homme noir. Pourtant, c'est un peu gênant ce que vous dites, Samy Tchak, si je peux me permettre. Parce que vous l'expliquez d'une certaine façon, en référence au colonialisme notamment, alors que le racisme, c'est malheureusement et simplement, je dirais, le rejet de la différence. Et partout dans le monde, il y a des racistes. Tout ce racisme-là existe partout dans le monde. C'est pas une histoire d'homme blanc, en fait. Pas seulement. Oui, il y a l'homme blanc, vous avez raison.
C'est ce que j'ai dit.
Mais c'est un peu troublant parce qu'on peut vous dire ça.
Non, c'est plutôt le racisme. J'ai même parlé de, disons, la différence qui peut être meurtrière. J'ai cité l'exemple des Hutus et des Tutsis. Mais je mets quand même vraiment une différence entre les pensées racialistes qui ont abouti à une vision du monde et qui ont permis à la civilisation occidentale, la seule au monde, à placer sa verticalité de façon universelle. Je le dis que si les Occidentaux n'avaient fait que théoriser, on n'aurait pas eu le monde qu'on a eu. C'est qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils ont dit.
Bon, il faut lire votre livre pour se rendre compte, évidemment, de toute la portée philosophique aussi de vos propos. Et puis pour réagir, parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec vous, je vous l'avais dit, vous allez faire réagir les lecteurs.
Ça, je pense quand même que ce serait dommage qu'on soit d'accord, surtout avec
bien
moi.
Sûr.
Ça, c'est dommage
surtout avec moi. Merci beaucoup, Samy Tchak. Merci infiniment d'être revenu dans la librairie francophone. Ainsi parlait mon père est paru aux éditions Jean-Claude Lattès. À bientôt, Samy. À suivre, un reportage avec un artiste phare de la scène disco et électro. Céron nous a accueillis chez lui à Paris dans son home studio pour un entretien plutôt inattendu. Avant cela, voici le tout nouveau titre du chanteur Étienne Dao, artiste phare quant à lui de la pop française, dans la librairie francophone.
Elle repose au milieu du jardin, affolée par mille et un parfums. Âmes et longueurs. Ah, 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 ah.
nouvelle Étienne Dao avec Le Jardin sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. On part à présent chez Céron à Paris dans un appartement home studio de Saint-Germain-des-Prés.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
Bonjour Marc Céron.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir ici chez vous à Paris. Vous publiez votre autobiographie Paradise aux éditions EPA. Il y a une phrase qui a retenu mon attention, Marc, à la fin du livre. Vous dites « Ce n'est pas parce que l'on ne naît pas avec les meilleures cartes en main que l'on ne peut pas réaliser ses plus grands rêves. »
Ben, j'en suis un peu la propre. Enfin, il n'y a pas que moi. Mais c'est pour dire que oui, évidemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je lis cette bio, je me surprends de prendre conscience de tout ce que j'ai vécu, mais je m'en suis pas vraiment trop aperçu, hormis des très bons moments, s'il y a ça. Mais bon, à chaque fois que j'ai eu une bonne nouvelle ou un succès dans une chanson ou des choses, s'il y a ça, c'était de me rassurer pour me donner encore quelques mois ou quelques années pour pouvoir faire de la scène. Tellement c'est fort et tellement j'adore.
Alors ici, on est dans le quartier littéraire, culturel, à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, pas très loin de nous. Je vais essayer d'être vague pour pas donner l'adresse, mais il y a deux cafés célèbres, le Flore, les deux Magots. À l'âge de 6 ans, Marc Céron, vos parents divorcent et vous vous trouvez en pension dans un orphelinat et ça se passe très mal. Vous parlez de 2 ans de prison et c'est un moment qui est assez dur pour vous. Vous allez en vouloir à vos parents d'ailleurs, vous l'expliquez dans le livre.
Comme tout enfant où les parents divorcent, j'ai tellement été élevé dans l'amour, dans un cocon. On n'avait pas beaucoup de sous, mais on avait beaucoup d'amour avec mon frère et ma sœur. Oui, ça a été 2 ans difficiles. Alors, je me suis retrouvé dans un orphelinat tout simplement parce que j'étais en milieu de saison. Ça n'a pas été facile, oui. Mais bon.
Alors 2 ans plus tard, c'est votre mère qui obtient votre garde et vous vous mettez à jouer de la batterie. Alors sans doute une batterie, petite batterie comme celle qui est derrière nous, qui est plutôt une batterie électronique là, mais une batterie voilà à l'origine chez un commerçant, vous l'essayez. Le commerçant dit à votre mère, ce petit est doué, il faut lui acheter cet instrument. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs, votre mère, vous aviez un deal avec elle. Elle vous dit, si tu restes à l'école, si tu te fais pas virer de l'école, je t'achèterai ta batterie.
Et voilà, et j'ai tenu parole et c'est incroyable qu'elle ait eu cette idée. La logique, c'est comme je tapais un peu partout, donc voilà, il y avait une logique. Et en fin de compte, elle m'a présenté mon meilleur ami. Ça a été ma batterie, mon meilleur ami de toute ma vie, oui.
Votre père veut que vous ayez un métier. Alors, il vous envoie dans une école et vous dites par provocation, je vais être coiffeur. Il accepte, vous allez à l'école.
Pas simplement coiffeur de la haute coiffure.
La haute coiffure.
Parce que c'était très cher, les études.
Vous sortez avec une mention. Vous quittez finalement le domicile de votre père puisque vous avez accompli votre mission finalement. Vous avez rempli votre contrat et vous allez dans les rues de Paris. Vous dormez dehors, vous fréquentez des soirées et vous rencontrez le patron du Club Med.
C'est une copine qui était bien plus âgée que moi, et elle avait un studio. Donc je vivais chez elle, et comme elle s'est fait engager au Club Med, 48 heures avant les départs dans les saisons, Gilbert Trigano les invitait, il faisait une grosse soirée, ce qui est ça. Et en fin de compte, à un moment donné, il est passé vers nous, et il m'a vu que je faisais un peu la tête, quoi. Un, j'étais un petit peu amoureux, et deux, pour moi, c'était un problème assez conséquent qu'elle allait se présenter. Et il a vu que je faisais la tête et il m'a dit, tiens, il a pas l'air content, le monsieur. Et je lui explique le pourquoi et il me dit, mais pourquoi tu viens pas au Club Med? Fais une saison, viens au Club Med. Et je lui dis, je peux pas, j'ai décidé que je fais de la musique et je veux faire de la musique et je peux pas faire de la musique chez vous. Il me dit, ah bon, on fait pas de musique au Club Med? Pourquoi on fait pas de musique? Je lui dis, bah oui, vous devriez avoir des groupes qui jouent un peu partout. Il m'a dit, tu saurais faire ça? Je lui dis, bah oui, c'est assez facile. Il appelle un mec dans la salle et il me le présente. Et enfin bref, je me suis fait engager au Club Med et je suis resté 1 an et demi. Et j'y ai trouvé les meilleurs éléments que je cherchais pour monter un gros groupe. Ce groupe a existé, c'est appelé Congas.
Un premier album avec Barclay et ce titre, Jungle.
Jungle qui devient un succès.
We'll be right back.
titre Jungle qui est un succès, effectivement. À partir de là, c'est la fête, Marc Cerrone. Un peu la débauche aussi. Sexe, drogue et alcool sont votre quotidien. Et même après l'aventure Congas, vous êtes très axé sur la cocaïne et sur le sexe, Marc. Vous en parlez beaucoup de la cocaïne et du sexe dans le livre. Si.
Je vous assure. Ah non, je vous assure, il ne l'est pas écrit comme ça, puisque.
Ah si, plusieurs fois.
Pas vécu comme ça. C'était une période 70s, très drogue, sexe, alcool, tout ça. Pas de débauche, mais d'excès. Moi, je dirais pas que c'est de la débauche.
D'accord.
J'ai connu la drogue dans les à peu près 3 ans, dans le début des années 80. Et je n'ai aucune raison de mentir ou de cacher. On le voyait, oui, mais on n'y touchait pas. Je vous répète, moi, j'ai dû commencer ça vers les années 82, je crois. J'avais résisté parce que ça ne m'intéressait pas, mais il y en avait, c'était à foison.
Vous avancez, hein, malgré les excès, vous montez des affaires, des magasins de disques, d'ailleurs, qui marchent très bien. Et puis, il y a un titre qui a une histoire incroyable. Vous restez quand même dans la musique et vous créez ce titre, Love in C Minor. Personne ne veut de ce titre à l'époque, Marc Cerrone, et c'est sur un malentendu qu'il se retrouve à New York, et on vous pique le titre. Il y a quelqu'un qui fait une reprise.
Absolument, je quitte le groupe Congas. Un an et demi après, j'ai envie de faire un album, mais pour moi, c'est très intime. Aucune chance que ça aille en radio, ou que ça aille quoi que ce soit, c'est pour ça que je n'ai pas fait de concession, et le titre fait 16 minutes 30 de long. Donc c'est un peu la preuve que je n'y croyais pas vraiment. Et il y a un magasin de disques sur les Champs-Élysées à l'époque qui s'appelait Chandis, qui est un petit peu l'amphithéâtre de tous les DJ qui veulent acheter des disques internationaux. Je baratine le mec en lui disant que j'ai l'exclusivité sur un import anglais. S'il en veut, faut qu'il passe par moi, qu'il écoute. Bref, 5, 10, 20, 30, et il voit que ça commence à fonctionner. Et un jour, il m'appelle en me disant « Livre-moi-en 300, on fait les comptes à la fin du mois ». Le problème, c'est qu'il me rappelle 2 jours après, je croyais qu'il avait tout vendu, il me dit « Non, j'ai un imbécile de magasinier, s'est trompé, au lieu de renvoyer des Barry White défectueux ou XY, il a renvoyé les tiens. » Sauf que les 300 reviennent jamais. Là-bas, le grossiste, quand il reçoit le carton, il voit que c'est pas les bons, il écoute. Coup de peau, il fait écouter un de ses vendeurs, qui est DJ le week-end, qui va le jouer dans un club à New York. Ça fait boule de neige, tout le monde demande ce que c'est. Un animateur qui s'appelait Frankie Crocker, qui était un animateur vedette dans une radio qui s'appelait WBLS, qui était la radio black à l'époque, il lance un appel à l'antenne comme quoi tout le monde réclame ce titre. Évidemment, les auditeurs téléphonent, ils en profitent, ils montent un coup. Ils décident de faire un cover, et le cover s'appelle The Heart of the Soul Orchestra, Love in C Minor Cerrone. Et on me dit avec insistance, ton disque est top 10 aux États-Unis. Je regarde dans les pages de Hit Parade et je vois Love in C Minor, mais je vois un nom avant, The Heart of the Soul Orchestra.
Alors ça part de là, hein, c'est que vous avez un gros succès aux États-Unis. Vous dites d'ailleurs que les médias français vous ont longtemps boudé, Marc Cerrone, ça vous a un petit peu atteint, parce que vous avez une mauvaise image en France, vous circulez en Rolls, vous faites plaisir en fait.
Aux États-Unis, j'étais très entouré, ici j'étais indépendant. Pas de manager qui me dit ça tu fais pas, ça si, ça ouais, ça non. Donc je l'ai appris sur le tas, ouais. Qu'il y a des choses qui se font pas. On n'est pas obligé, ça devient de la provoque.
Pourquoi ça se fait pas? Si, ça peut se faire.
Non, ça se fait pas, parce que quand je suis devenu ce qu'on peut appeler un peu plus mûr, aujourd'hui j'oserais pas rouler en Bentley, j'adorerais, non j'oserais pas, il y a trop de gens dans la misère, il y en a trop qui souffrent, si j'ai envie de me payer des choses de valeur ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin de l'exposer.
C'est trop ostentatoire, c'est ça?
Trop ostentatoire, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Comment j'ai c'est drôle. C'est drôle.
Cette semaine, votre père, il vous dit, garde-toi un peu plus loin.
Je vais chez mon père, tout à fait. Je vais chez mon père un jour. Je suis tout fier. Je descends de la voiture. Il m'engueule. Il me dit, va te garer plus loin. Qu'est-ce que vont dire les voisins? Bah, il me l'avait pas dit avant. Il aurait pu me le dire. Bref. Et en plus, comme j'avais des pochettes assez provoques. Ouais. Comme Supernature, avec des corps de femmes et des têtes de monstres, ou des femmes sur des frigidaires avec des pots de yaourt qui tombent par accident, mais on croit que c'est de la coque. Moi, je m'en amuse. Oui, c'est de la provoque, oui. En France, bah, les interviews me posaient des questions comme vous êtes en train de le faire, ne voyant que le côté de mes conneries, quoi, voilà.
Mais parce que vous pensez que je vois que le côté de vos conneries, là?
Non, je le pense pas, je l'entends.
Ah, vous croyez?
Donc, je vous réponds. Bon,
mais je pense que c'est pas ça du tout, parce que j'ai lu votre bio, en fait, Marc. J'ai lu toute la bio et j'ai tout relevé. Alors, j'ai peut-être trop bien lu le livre où il y a des choses que vous n'avez pas envie d'avouer aujourd'hui, mais vous l'avez écrit.
Pourquoi vous dites si je n'ose pas de l'avouer, puisque vous me le sortez, là, vous me posez les questions parce que je l'ai écrit.
Vous dites que je dis des choses négatives, non?
Je m'en cache pas. Mais comme vous sortez de chez moi par rapport à cette bio, mon côté un peu provoque, donc j'essaye d'être à la hauteur de votre interview.
Ah d'accord, vous trichez alors.
Je ne triche pas, je sais mon côté aussi. Je trouve que je suis plutôt un exemple de quand on veut on peut, plutôt que quelqu'un montrer du doigt.
J'ai commencé par ça d'ailleurs.
Tout à fait, vous pourriez continuer d'ailleurs.
On va continuer avec Supernature qui sort en 1978.
Ne soyez pas offusqué, hein.
Mais je ne suis pas offusqué du tout, mais bien sûr qu'on joue.
Très bien.
C'est le jeu de l'interview, j'adore ça. ...1978, donc Supernature, qui va vous faire connaître du grand public en Europe et aux États-Unis. Et puis il y a la peinture, Marc Serron. Vous dites que la musique vous a empêché de glisser dans le livre. La peinture vous apaise? Qu'est-ce qu'elle vous procure, elle?
La peinture, je l'ai fait une fois de plus par accident, car j'ai été un opportuniste. C'est certes, dans des périodes de 3-4 mois, des fois, pas d'album à faire, pas de tournée. Au lieu d'accepter des choses que j'aurais pu faire, des petites productions ou autres, je me suis libéré, j'ai peint. Et c'est vrai que de peindre, ma sensation, c'est pas comme quand je suis en studio, pas comme si je suis à la batterie, c'est plutôt quand je suis sur scène.
C'est ce que vous dites, ouais, vous avez la même sensation en fait, devant une toile que devant le public.
Dans la séduction, c'est-à-dire faut jeter là.
Là, on est à votre console, hein, on va dire, avec des magnifiques fauteuils en cuir, très confortables d'ailleurs, des écrans qui sont devant nous, des enceintes évidemment. Dans ce studio-là où on est-ce qu'il y a un objet auquel vous tenez particulièrement, Marc Serron? Est-ce que vous êtes attaché aux objets?
Oui, tout. Oh, pas plus qu'il n'en faut. Mais oui, mes awards américains, les Français, j'en ai quelques-uns.
Ils sont où les awards américains là?
Bah là-haut, les 5 là-haut, là c'est le Golden Globe, là c'est le Chevalier des Arts et Lettres, là c'est... J'en ai un petit peu partout, mais je les mets pas en vitrine comme certains. Je les éparpille dans l'appartement et dans le sud, dans ma maison.
Vous aimez les récompenses, les honneurs?
J'aime pas l'objet qu'on me remet, mais j'aime le fait d'être reconnu par mes pairs, oui, parce que je suis un tel autodidacte. Ouais. J'ai tellement passé de nombreuses années au début de ma carrière pensant qu'ils étaient fous, quoi. Je voulais tellement pas être le trompeur que j'ai beaucoup travaillé et appris pour tenter d'être au minimum à la hauteur. Moi, je monte dans ma montgolfière le plus haut possible et c'est sans cesse avoir à couper des lianes qui vous freinent.
Bon voilà, on sonne chez vous, on va vous laisser travailler. Merci beaucoup Marc Serron.
C'est moi qui vous remercie.
Merci d'avoir été dans la librairie francophone sur la RTS, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Votre livre Paradise, autobiographie, est paru aux éditions EPA. Merci Marc.
C'est moi. À bientôt, j'espère.
Et vous pourrez retrouver une photographie de Serron dans son appartement à Paris sur notre site internet et sur Facebook et Twitter. Emmanuel Kérad, la chronique des libraires tous ensemble pour les coups de gueule et les coups de cœur. Déborah Damblon en Belgique, un coup de gueule.
Oui, un coup de gueule, Emmanuel. Enfin, plutôt un coup de mal au cœur, en fait. Vous savez, pour toutes ces personnes, mais oui, mais pour tous ces gens qui veulent écrire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de nos jours, tout le monde veut écrire. Et puis, ils ne trouvent pas de vrai éditeur et ils finissent par se faire publier à compte d'auteur. Ce n'est pas grave, en soi, de se faire publier à compte d'auteur. Mais le problème, c'est qu'ils pensent qu'ils le sont à compte d'éditeur. Et puis, du coup, bah, ils arpentent les librairies, vous voyez, tout tristounet comme ça, la mine basse. Et puis, ils se demandent pourquoi leurs livres, ils ne sont pas là. Et puis, le plus gros problème, enfin, à mon sens, c'est qu'ils finissent par se fâcher sur le libraire, comme si c'était lui qui était coupable de la non-diffusion de ces structures. C'est pas cool.
C'est pas cool, et il faut souligner aussi qu'il y a des escrocs, donc on alerte hein, tous les écrivains en herbe. Il y a beaucoup d'escroqueries dans les éditions à compte d'auteur. On vous demande de l'argent, ne payez jamais pour publier un livre. Voilà, c'est le seul conseil qu'on peut donner. Merci Déborah. Claire Renaud est en Suisse avec un coup de cœur dans le rayon des bandes dessinées et de l'émotion aussi, Claire.
Oui, Adieu les enfants d'Hélène Bettelin.
qui est la petite sœur de Philippe, le regretté Mitzeremitz. Alors elle va se plonger dans son enfance pour nous offrir un livre qui est plein de tendresse et d'humour. Le dessin est évidemment très présent dans sa famille, mais il y a également les départs en vacances, les visites chez la grand-mère, le ski. Et du coup, ces souvenirs qui pourraient nous sembler très personnels nous rapprochent et touchent à l'universel. En fait, ce qu'il en reste, c'est un livre qui est joyeux et lumineux. Il est vraiment à découvrir.
Oui, Adieu les enfants aux éditions Antipode et Mix et Remix dont on se souvient, célèbre dessinateur caricaturiste suisse, mort en 2016. On l'avait reçu évidemment dans cette émission. Merci beaucoup Claire. On part au Canada avec Marie-Hélène Vaugeois et un coup de cœur dans le rayon des romans.
Oui, un immense coup de cœur pour Grosse de Linda Dion. Linda Dion, c'est une femme qui écrit comme elle respire. Elle nous entraîne dans une grande bouffée d'émotions. Je ne pouvais plus lâcher le livre. J'étais incapable de lâcher le livre, comme s'il y avait une urgence dans ma lecture. C'était vraiment un grand, grand coup de cœur. Puis je me promets de le relire plus tranquillement très bientôt.
Grosse, c'est le titre. Linda Dion, éditions du Septentrion. Allez, Mathieu Colombe, on termine avec un coup de gueule.
Oui, sur Ticonderoga. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une réédition d'une très vieille bande dessinée qu'Hugo Pratt avait illustrée.
Oui.
Alors, Hugo Pratt, son dessin, c'est quand même beaucoup basé sur les aplats noir et blanc. On utilise beaucoup l'encre de Chine. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est un problème technique, en fait.
Oui.
C'est très vilain à regarder, c'est complètement flou. Les noirs sont gris, donc bon, bah, c'est un peu hein, comme si on avait mis un coup de poignard dans le tombeau d'Hugo Pratt. Mais donc, comme je vous le dis, je pense que vu que c'est une très très vieille BD, je pense que c'est un problème technique. Mais par contre, je comprends pas. Peut-être que le format correspond pas, parce que vraiment, en plus, les images sont floues. Enfin, on dirait des agrandissements à la photocopieuse.
Voilà. C'est une catastrophe, quoi.
Oui, et je comprends pas qu'on ait laissé sortir ça, quoi, en fait.
Bon, c'est voilà. Chez Casterman.
Ouais.
Donc, Ticonderoga. Et de Hugo Pratt.
Exactement.
Bien. Merci d'avoir souligné ça, Mathieu. Dans un instant, le nouveau roman de Claire Castillon. Nous allons parler des hommes maltraités par les femmes, ça existe aussi. Avant cela, on danse sous le soleil avec le groupe de salsa sénégalais Africando et le tube Scandalo, une chanson populaire de Trinidad, rendue célèbre par une grande chanteuse dans les années 60. À vous de deviner qui. Tout le monde joue, les invités en plateau aussi. Claire, concentrez-vous. On écoute Africando dans la librairie francophone.
Ta mère ne le sait pas. Ta mère ne sait pas.
Salsa d'Africando de ce titre Scandalo, reprise d'une chanson populaire de Trinidad qui date de 1943, interprétée en 1965 par une chanteuse célèbre, Samicha, Claire Castillon.
Oui, bah, j'avais pensé à Régine, non, Régine.
Non, ce n'est pas Régine. Claire Castillon.
Sylvie Vartan.
Non, ce n'est pas Sylvie Vartan. Notre libraire, Mathieu Colombe, personne. Bon, c'était Dalida en 65.
Ah oui.
la librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
L'écrivaine française Claire Castillon est dans la librairie pour son nouveau roman Ma Grande, paru aux éditions Gallimard. C'est votre premier roman dans la prestigieuse collection Blanche de Gallimard, après Fayard, Stock, Grasset, L'Olivier. Gallimard, Claire.
Oui. Absolument.
Pas de commentaires ?
Ah non, c'est bien.
Oui, c'est bien. Bon, je vois. Parlons de ce roman alors, Claire. Roman qui est complètement atroce. Une femme détruit son mari et son couple par jalousie excessive. Elle est sadique, perverse, égocentrique, violente, abjecte. Vous faites tout pour qu'on la déteste.
Je pense que l'homme qui raconte fait tout, en effet, pour qu'on l'entende. C'est-à-dire que, à présent qu'elle est morte, il l'a tuée, ça il le dit au début, ouais. Donc je peux le dire. Il peut parler. Il retrouve ses mots. Et donc, il les met dans l'ordre et sa priorité, c'est vraiment de dire tout ce qu'il a sur le cœur et qu'il n'a pas dit depuis 15 ans, depuis 15 ans qu'elle le prend pour rien, en fait. Il a été personne. Donc il décide de prendre la parole et en effet, je la lui donne. J'ai
force,
envie qu'il parle,
ouais.
Pour le coup.
On peut parler de violence conjugale ?
Oui, j'imagine que ça doit être le mot. J'imagine qu'elle est violente. Elle n'est pas violente avec les mains. Elle exerce sur lui une agressivité perpétuelle qui laisse pas de traces. C'est pas une femme qui fait des bleus. C'est une femme qui fait mal tout le temps parce qu'elle empêche l'autre d'exister,
vivre.
De ouais. vivre, de respirer.
Mais vous abordez comme ça, Claire Castillon, le thème de la nécessité d'une séparation dans un couple qui va vers le pire. Et le pire arrive parce que cet homme, à bout, battu psychologiquement, va tuer sa femme.
En fait, ils vont rester 15 ans ensemble, et puis pendant leur vie, il aura envie de partir plusieurs fois, mais il ne pourra pas. Et je pense qu'il verra très bien qu'au début, il se dit ça va changer quand on aura la maison, quand l'enfant sera là, quand elle sera rassurée. Et puis en fait, à chaque fois, ça ne change pas. Mmh. Et lui, du coup, au lieu de partir, reste parce qu'il a peur pour l'enfant. Il se dit, si je pars, je ne verrai plus ma fille.
Mais c'est-à-dire qu'il a un jeune enfant qui vient de naître. Et puis, il a un crédit sur 25 ans avec la maison qu'ils ont achetée à deux. Et donc, tout ça, ça le bloque.
Oui, il est bloqué et en plus, il a peur. Donc, son triomphe devient à peu près, pas quotidien, mais hebdomadaire quand il fait quelque chose dans le dos de cette femme et qu'il a l'impression qu'elle ne le sait pas et qu'il a une petite victoire. Comme par exemple, quand elle lui dit de sortir les poubelles et qu'il le fait, mais pas dans le sens qu'elle a demandé. Donc là, il se dit, ça y est, j'ai gagné. C'est à peu près tout ce qu'il obtient dans son combat quotidien.
Ouais, tout ce qu'il supporte est incroyable, en tout cas. C'est vrai qu'elle l'empêche d'écrire, elle l'empêche d'aller au sport, de voir ses amis, de faire des déplacements professionnels, d'avoir sa propre carte bancaire. Il est enfermé comme ça dans une relation exclusive. Et il y a beaucoup d'hommes qui vivent ça, Claire Castillon, des crises conjugales extrêmes, parfois violentes. Et souvent par crainte ou pour avoir la paix, ils sont capables de supporter beaucoup de choses. Jusqu'où ça peut aller, ça ?
J'ai l'impression que pour avoir la paix, pour garder comme ça l'impression de peut-être... d'un faux semblant de calme, c'est ça qui est étrange, parce qu'en fait, ils acceptent petit à petit. Moi, je pense quand même que l'acceptation se fait parce qu'on se dit qu'il y aura un mieux, qu'elle va se calmer, que ça va pas rester comme ça éternellement. Mais une fois que les choses sont installées, que les mécanismes sont fixés, c'est impossible de les défaire, sauf à partir. Et qu'est-ce qui fait qu'on part pas? Je pense qu'à un moment, pour les hommes qui sont pères, il y a la terreur à l'idée que leur enfant leur soit enlevé. C'est-à-dire que des femmes comme ça peuvent raconter n'importe quoi. Donc il y a cette peur-là. Et ensuite, l'extrême peur du chantage. Parce qu'à l'inverse, dès qu'il s'en va, il a aussi peur qu'elle commette un acte irréparable, qu'elle fasse une bêtise. Elle fait du chantage. Ils sont complètement desséchés. Donc c'est très difficile de demander à quelqu'un qui ne peut plus respirer de partir en faisant un sprint. En gros.
On connaît votre regard acide sur les relations de couple, Claire Castillon, mais là, vous écrivez les confessions d'un homme. C'est très réaliste, très juste, au point qu'on pourrait croire que vous avez fait vivre ce genre de moment à un homme.
Mais je pense que pour écrire...
Réaction m'inquiète, parce que normalement on réagit très rapidement derrière ce genre
de propos.
Je fais
toujours une petite seconde de silence pour le mystère, en fait.
Parce que là, bon...
J'ai l'impression que quand on écrit, en fait, c'est pas ce qui est intéressant, parce que moi je cherche pas le personnage le plus intéressant possible, mais c'est... J'ai besoin d'un personnage qui me transporte, et avec lequel je vis pendant un certain temps. Et du coup, je pense que être avec cet homme... meurtri, etc. C'est ça qui m'intéressait. Après, dans la vie, ce qui m'intéresse, on s'en fiche, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est vraiment
c'est
la
très,
liberté.
C'est très incarné, hein, si je peux relancer ma...
Ça, c'est important. Non, mais je pense que
ma réflexion.
Si c'est incarné, ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que c'est réussi, mais par chance...
Mais c'est inventé. Tout est inventé.
Tout est inventé, mais tout est aussi entendu ou transformé. Ouais, ouais. Ou c'est-à-dire que y a comme j'ai déjà entendu plein d'hommes me dire j'ai pas le droit d'aller au sport, ouais, j'ai pas le droit de courir parce que dans le bois je peux faire des rencontres. J'ai entendu des choses terribles. Hein.
Bien. Quatre libraires ont lu votre livre, Claire Castillon, comme pour Samy Tchak. On commence par le Canada avec Marie-Hélène Vaugeois.
Oui, mais moi j'ai adoré ce roman, j'arrivais plus à le lâcher, j'ai trouvé juste pas caricatural du tout. Mais on peut pas s'empêcher de réfléchir aux couples qui nous entourent, à nous-mêmes, se reconnaissant dans l'un et l'autre des personnages, même si on préférait se dire qu'on ne leur ressemble pas du tout.
C'est inquiétant chez vous, Marie-Hélène. Déborah Damblon pour la Belgique, d'accord, pas d'accord?
Moi, c'était une plongée en apnée, mais vraiment dans un gouffre, parce que je trouve que vous nous entraînez dans ce roman et c'est terrible. On part d'abord presque de l'abstraction désincarné au début, et puis on plonge, mais comme ça, dans le sombre, dans l'inquiétant, dans le désolant des âmes humaines. Et c'est passionnant, mais c'est glaçant et c'est désespérant. Mmh. Et le pire, pour moi, je trouve, c'est que au fond, à certains moments, eh ben, on se projette dans les personnages. Et moi, je me suis demandé parfois, ben, je suis pas sûre de ce que j'aurais fait. Je suis pas sûre que je suis quelqu'un de bien quand je dis ça. Et c'est terrible.
Ils sont flippants, les libraires. Mathieu Colombe, vous qui avez été un homme maltraité alors, que voulez-vous dire à Claire Castillon ?
Eh bien, je suis quand même très d'accord avec mes petits camarades, parce qu'effectivement, dans ce roman, vous nous mettez face, à travers ces personnages, face à nos travers les moins glorieux. Et d'ailleurs, je mets au défi quiconque qui lit votre livre de pas se retrouver à un moment donné dans l'un ou l'autre de vos
mais
personnages.
Pas du tout, Mathieu, je m'oppose
soit
à ça.
Soit dans lui, soit dans elle. Mais bien
impossible.
Sûr. Ah mais si.
Mais c'est trop extrême, c'est pas possible.
C'est très extrême, mais on a tous des côtés extrêmes. Bah, forcément, un moment où vous avez pensé comme ça, je vous dis comme l'un ou comme l'autre. Vraiment, moi en tous les cas, ça m'est arrivé, je l'avoue.
Ah oui?
Oui, pas mal comme elle d'ailleurs.
Comme, alors, aussi comme de quel côté vous êtes?
Ah non,
je suis perdu. Claire, vous voulez réagir?
Mais c'est marrant parce que j'ai entendu récemment une amie me dire qu'elle l'avait offert à quelqu'un et que cette femme lui avait dit « Oh là là, je le cache parce que je veux surtout pas que mon mari le lise parce qu'il va dire que c'est moi la femme. » Donc ça m'a...
Cet homme est-il lâche ou soumis ?
Je pense qu'il est les deux. Il se demande, enfin, il sait pas à quelle sauce il va être mangé, donc je pense qu'en effet, il s'écrase. Au début, il s'écrase.
Ouais. Il quitte toutes les illusions qu'il a sur la vie. En fait, c'est ça. Il renonce à une vie épanouissante. Il y a trop d'obstacles à surmonter, en fin de compte. Il espère juste qu'elle le quitte. Et il dit « J'étais le seul mec qui croisait les doigts en rêvant que sa femme aille se faire trombiner ailleurs. »
Oui, parce qu'il a une espèce... En effet, il accède peu à peu à une passivité totale, en gros. Donc il se dit, bon là, il faudrait presque qu'il y ait une agence qui se charge de la rupture, en fait, qu'on vienne le chercher, qu'on lui dise, allez, on t'emmène à tel endroit, tu la reverras plus jamais, on te le promet, on s'occupe de tout. Il est devenu tellement passif qu'il ne peut pas prendre la responsabilité. C'est pour ça que le jour où sa femme s'invente un amant pour le rendre jaloux, et pour voir si quand même il est jaloux, il se dit, mais ce serait mon rêve, mais je sais qu'elle me ment, et que bien sûr qu'elle n'a pas d'amant.
Oui, il lui demande si elle est sûre. Oui. Elle dit, je ne demande pas ça pour elle, je demande ça pour moi, pour être sûre que je sois vraiment libre. Enfin, on en rit, mais ce n'est pas drôle du tout, parce que ça existe vraiment. Alors, je tiens vraiment à avoir la mesure quand même du propos, parce que c'est très drôle, votre livre, Claire Castillon. Vous arrivez à le rendre drôle, ce personnage, tellement c'est extrême. Mais malheureusement, il y a des situations comme ça. Il y a des hommes et des femmes qui vivent des drames dans leur couple. Et lui, ce qu'il va faire, eh bien, c'est que pour la calmer un jour... Il va carrément la demander en mariage et ils vont se marier, il va s'enfoncer encore plus. On va laisser le mot de la fin pour une libraire, Claire Castillon, avec Claire Renaud qui est en Suisse.
Oui, moi aussi, j'ai tout de suite su dès la première phrase que j'allais adorer votre ouvrage. Il est vraiment cinglant et puis vous avez une écriture qui est fluide avec tout ça. Alors, bon, moi, je comprends juste pas la passivité du narrateur. Hein, pourquoi il réagit pas plus vite? Et je vous dis, pendant la lecture, je me suis surprise à dire plusieurs fois des vilains mots hein, avec cette grande... Par contre, votre fin, alors heureusement, est tellement jouissive et j'ai éprouvé un énorme soulagement. Et en plus, il y a une image que j'ai trouvée très poétique, alors je ne sais pas si je peux la dire.
Non,
peut-être pas.
Non, pas la fin
et
quand même.
En tout cas, c'est un livre que je recommande vraiment. vraiment. Ouais. Merci.
C'est vrai que c'est réussi, Claire Castillon, et c'est un roman saisissant qui fait penser au roman de Leïla Slimani, je ne sais pas si vous l'avez lu, Chanson douce, dans un tout autre registre, hein, évidemment, mais il y a cette violence comme ça, psychologique. Il est construit un peu de la même façon, avec la même concision et la même efficacité. Donc ceux qui ont aimé Chanson douce aimeront votre livre, même si évidemment ce n'est pas le même sujet.
Merci.
Merci Claire Castillon, merci beaucoup. Ma Grande est parue chez Gallimard. À bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Et avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone, voici l'artiste français Thousand, comme son nom l'indique, avec un extrait de La vie de mes sœurs.
Dans de nombreux bras, de nombreuses fleurs,
j'ai vu par les yeux de mes sœurs.
Là-bas, que vois-tu venir dans l'ombre?
Aujourd'hui ton corps et demain le monde.
Souviens-toi du jour où le rêve est mort, moi.
Piégé dans la nuit, j'en rêve encore.
J'ai lu l'avenir du monde dans ton regard.
Je jure sur la tête de Robert Ménard.
Un jour s'est levé, t'as jamais rappelé. Je me demande encore ce que Jésus aurait fait. Peut-être que tu savais très bien où t'allais. Toi et l'engin et l'aveugle à ses pieds. T'inquiète pas pour moi, je t'ai vu en rêve. J'ai eu tout ce que j'ai voulu, tout ce qui aurait pu être. Aujourd'hui comme hier, une vie passée à perdre. Souviens-toi, Michniak, tous les disques sont de la merde.
Dans de nombreux bras, de nombreuses fleurs, j'ai vu par les yeux de mes sœurs. Là-bas, que vois-tu venir dans l'ombre? Aujourd'hui ton corps et demain le monde. Dans de nombreuses voix, de nombreux cœurs, j'ai vu sur la vie de mes sœurs. J'ai lu l'avenir du monde dans ton regard. Je jure sur la tête de Robert Ménard.
J'ai pas peur de mourir comme Pharaon. Corps, la figure enfouie dans les ronces. J'ai passé ma vie à entrer dans un rêve. Mais toi enfant, tout ce que tu verras est vrai. Toutes les nuits je revis le commencement. Mais aujourd'hui avec toi j'y suis vraiment. Montre-moi ce qui se cache derrière les pétales. Conduis-moi dans le tunnel végétal.
Thousand, la vie de mes sœurs. Titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci Samy Tchak, à très bientôt. Claire Castillon, bonne semaine, bon week-end à vous. À la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Philippe Duclos, à la technique, Thierry Dupin, à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Follet et Yannick Chouet en Suisse, René Mikkels avec Valérie Le Putain en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet au Canada. La semaine prochaine, le grand voyage francophone continue avec les auteurs qui font l'actualité de la littérature et de la culture francophone. Passez un bon week-end et une bonne semaine. Salut.